EMCI TV vous présente À table avec Annabelle, votre podcast francophone chrétien 100% féminin. Prenez place à table avec Annabelle pour des discussions authentiques, fun et profondes, empreintes de la parole de Dieu.
Bonjour, bonjour tout le monde. Heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle semaine et ce nouvel épisode d'À table avec Annabelle. Et en ce début de semaine, eh bien, je veux prendre le temps de remercier toute la famille des partenaires. Un grand merci à vous tous. Et aujourd'hui, eh bien, je suis avec Aurélie, Stéphanie et Sandra. Bonjour les filles.
Bonjour.
Vous allez bien?
Bonjour les filles.
Allô Aurélie.
Allô Aurélie. Et donc, je disais que je remerciais toute la famille des partenaires. Et je ne sais pas si vous saviez, mais on reçoit aussi des sujets de prière des partenaires. Et aujourd'hui, j'aurais aimé qu'on prie particulièrement. J'ai regardé les sujets de prière et j'ai vu le sujet de Ruth du Cameroun qui nous dit qu'elle a déposé plusieurs dossiers, plusieurs CV un petit peu partout et qu'elle cherche un travail. Et je crois que Dieu est fidèle. Alors que Ruth s'est engagée pour devenir partenaire, je crois qu'il y a aussi une bénédiction qui se rattache à ce partenariat. Alors je vous propose qu'on puisse prier ensemble. Aurélie, oui. Cameroun, on va t'accompagner.
Vite fait.
Oui, on va t'accompagner pour prier pour Ruth et on croit que Dieu.
On va prier pour Ruth et pour tous nos partenaires, même qui sont dans une situation similaire. Parce qu'effectivement, on reçoit plusieurs sujets de partenaires et on prie pour vous les lundis. Sachez qu'on a un temps de chapelle et on prie pour nos partenaires et même dans la semaine encore, on prie pour vous. Donc oui, n'hésitez pas à nous envoyer vos sujets et aujourd'hui, on va prier pour Ruth et pour toutes ces personnes qui cherchent le travail. Seigneur, on croit en ta fidélité, on croit en ta bonté, Seigneur Jésus-Christ, on croit, Père éternel, que tu as dit qu'on va voir la différence entre ceux qui te servent et ceux qui ne te servent pas. Alors que Ruth s'est sacrifiée pour ton royaume en devenant partenaire de cette œuvre, Seigneur Jésus-Christ, alors que oui, à travers tout ce qu'on fait ici, on voit des témoignages de vie transformée. Seigneur, nous venons devant toi aujourd'hui et nous te disons qu'une porte s'ouvre dans la vie de Ruth et qu'une porte s'ouvre dans la vie de toutes ces personnes qui recherchent du travail, la vie de ces personnes qui ont déposé des CV à gauche et à droite et qui s'attendent à des réponses. Seigneur, nous venons déclarer aujourd'hui que leur CV ne sera pas ignoré, qu'il ne sera pas ignoré au nom de Jésus-Christ et nous croyons que la faveur les accompagne. Tu es le Dieu qui incline le cœur des rois en notre faveur et nous déclarons que les responsables des ressources humaines, des personnes qui ont un pouvoir de décision par rapport à l'embauche de ces gens, que ces personnes aient le cœur incliné par ta puissance, Seigneur Jésus-Christ. Seigneur, merci parce que aujourd'hui même, cette semaine même, des appels arriveront et plusieurs trouveront ce travail. Par la puissance du nom de Jésus, nous le déclarons et nous disons Amen. Amen et Amen.
Amen. Alors Ruth, si tu nous suis, eh bien, écris-nous, contacte-nous pour nous dire quand tu as trouvé un travail. Et puis pour vous tous aussi, les partenaires pour qui nous avons prié, bien n'hésitez pas à partager aussi cette bénédiction pour nous dire ce que Dieu a fait dans votre vie. Et alors on se réjouit pour toutes ces nouvelles opportunités. Je crois même que certains d'entre vous, vous devrez faire des choix parce qu'il n'y avait rien qui rentrait. Mais là, il y aura trop de choses qui rentrent. Seigneur, maintenant, ce sera qu'est-ce que je dois choisir. Alors, le Seigneur te conduira. Et cette semaine, les filles, on va parler de pardon parce que dans la vie, malheureusement, on passe à travers des moments quelquefois relationnels, notamment difficiles, et où on est face à un choix. Est-ce que je vais pardonner ou est-ce que je vais garder cette offense? Et quelquefois, on n'a pas l'impression qu'on a ce choix, en fait, parce que la blessure, la douleur peut être tellement grande qu'on se dit, mais est-ce que je pourrais vraiment m'en sortir un jour? Mais la bonne nouvelle, c'est que oui, on peut s'en sortir un jour. Le pardon, c'est possible, c'est accessible, c'est pas quelque chose d'impossible, réservé à une certaine élite. Nous tous, nous pouvons pardonner par la grâce de Dieu. Et il y a des choses qui sont plus difficiles aussi peut-être à pardonner que d'autres. On va souvent dire pardonner l'impardonnable. Et une des choses, je trouve, qui fait partie des choses les plus abominables qu'on peut vivre sur cette terre, c'est l'abus, c'est les viols, les abus sexuels. C'est tellement répandu, tellement de vies ont été brisées à cause de ça, des vies de femmes qui après entrent aussi dans le mariage, entre dans une saison de maternité avec tellement de blessures parce que elles ont vécu toutes sortes d'abus. Et c'est pour ça qu'on dit oui, pardonner la pardonnable. Est-ce que c'est possible? Et aujourd'hui, eh bien, nous recevons Rachel. Bonjour Rachel, qui est avec nous et qui va nous partager. Tu vas nous partager, Rachel, ton témoignage. Comment l'inceste, comment l'abus ne t'a pas détruite. Et je crois que on a besoin d'entendre ce genre de témoignage. On a besoin de savoir que c'est possible d'être entièrement restauré, pas juste un peu, mais entièrement restauré. Et c'est ce que tu témoins, c'est ce que tu partages aussi autour de toi, un vrai message d'espoir et de restauration vivant. Donc, bienvenue à toi, Rachel, on est très heureuse de t'accueillir aujourd'hui.
Merci, hein, merci pour l'opportunité.
Ben écoute, allons-y.
Ça prend du courage, hein, franchement, oui, bienvenue parmi nous. Et puis, on est contente de t'avoir. Je suis certaine que ton témoignage va être une source d'encouragement pour plusieurs femmes qui ont traversé une épreuve comme ça. C'est quand même difficile. Mm-hmm. Ça prend du courage quand même. Merci d'être avec nous.
Donc toi, Rachel, tu es mariée, c'est ça, depuis 8 ans? 9 ans, ok. Depuis, et vous avez... c'est là où vous avez 3 enfants.
Exactement.
Bah, c'est bon. Vous avez 3. Voilà, par la grâce de Dieu, tu as pu former cette famille. Tu es toi-même aussi impliquée au sein d'une équipe ministérielle dans une église, aux côtés d'ailleurs de ton mari. Donc en fait, vraiment, c'est le portrait quasiment d'une famille parfaite. En plus, je vous ai vu et c'est vrai que vous êtes assez beau ensemble.
Beau.
Ouais, quand même.
Les c'est enfants, quel âge les enfants?
Trop mignon.
Tes enfants,
alors,
les gens, quel âge?
Ils ont 6 ans, 3 ans et 2 ans, donc je suis bien occupée, je m'en duis pas.
C'est mignon.
et donc, en fait, pour un peu nous remettre dans le contexte, c'est que donc, ça fait 9 ans que tu es mariée, tu es rentrée dans le mariage et vous avez une... comment tu disais, vous avez eu un début de mariage qui était vraiment bien, etc. Et là, en fait, il y a eu un déclic. Il y a quelque chose qui a commencé à se passer en toi. Et ce qu'on va appeler, on va le dire tout de suite, c'est la mémoire traumatique qui s'est comme réveillée. Et t'avais quel âge à ce moment-là?
J'avais 20 ans.
J'avais 20 ans, ok. T'avais 20 ans. Et du coup, tu peux peut-être nous expliquer ce qui s'est passé à ce moment-là. Puis après, on reviendra un peu plus sur ton enfance, du coup.
Oui, très bien. Alors au final, c'est quand je me suis mariée que tous mes souvenirs sont remontés à la surface. Donc disons qu'au moment où je me suis mariée, disons que j'avais un terrain assez propice pour vraiment me sentir bien, me sentir à l'aise. Et c'est là que les souvenirs sont vraiment revenus. Et c'était des souvenirs de viol et d'abus. Donc ce qui a été compliqué, c'est que c'est des souvenirs pour moi qui étaient vraiment improbables. C'était pour moi impossible. Et surtout, je me disais que comment c'est possible qu'à l'âge de 20 ans, on puisse se souvenir de ce genre de choses. Pour moi, c'était impossible. Et ce qui fait que j'ai essayé de refouler ça, j'ai essayé de l'enfuir. J'avais vraiment l'impression de devenir folle, vraiment.
Est-ce que tu avais conscience que c'était des souvenirs où tu te disais peut-être c'est des oppressions, c'est des images diaboliques qui viennent essayer de me perturber? Où tu te disais, mais attends, j'ai quand même l'impression que c'est ce que j'ai vécu.
Oui, disons que c'est le souvenir est revenu pas seulement tout seul, mais avec aussi des émotions, avec aussi des sensations, des choses qui m'horrifiaient, des choses qui me perturbaient. Et en fait, c'est devenu même physique, donc ce qui faisait que je ne pouvais plus faire comme si ça n'existait pas, en fait.
Et est-ce qu'il y a eu un déclencheur? Est-ce qu'il y a eu un déclencheur quand il s'est revenu? Ou bien, est-ce que tu te souviens d'un moment, qu'est-ce qu'il y a quelque chose qui a déclenché cette mémoire-là?
Alors déjà, c'est le mariage. Et justement, quand on se marie, on est confronté très vite à la sexualité.
Ouais, c'est ça.
Je pense que c'est ça qui a réveillé les choses. Et sans parler des grossesses, ça réveille tellement de choses à l'intérieur de nous-mêmes que vraiment, ça a été le mariage... avec les enfants, tout ça, toutes ces fortes émotions en fait ont réveillé ce qui était vraiment enfui et endormi. Donc je pense que il fallait que je sois dans un terrain où je me sentais à l'aise, où je me sentais bien, où je me sentais protégée pour que ça puisse remonter à la surface.
Et avant ça, toi, t'avais jamais eu de doute ou de soupçon, tu t'étais jamais demandé, mais est-ce que j'ai été abusée?
Ben, disons que avec l'expérience maintenant, avec les années, je me rends compte que quand j'étais adolescente, j'en avais parlé un petit peu avec des copines ou des personnes autour de moi, mais je n'arrivais pas à remettre la personne. J'arrivais pas à remettre le contexte, donc j'en parlais, mais en fait tellement que ça semblait faux qu'au final je me suis dit ben que c'était pas vrai et ma mémoire s'est de nouveau éteinte. Donc voilà.
Et tu connaissais ce principe de la mémoire traumatique?
Pas du
tout. T'en avais déjà entendu parler?
Non, pas du tout. C'est à l'école d'aide-soignante où on commençait à parler de ce genre de sujet et qu'en fait, petit à petit, la psychologue qui était là ce jour-là, elle en a parlé et c'est là ça m'a fait tilt. Je me suis dit, ah, c'est peut-être que ce que je vis. Et après, il y a d'autres circonstances, des témoignages, des personnes qui venaient me parler de ce genre de sujet. Et c'est là que je me suis dit, c'est vraiment réel et t'as pas le choix d'y faire face, en fait.
Et ça a duré combien de temps, un petit peu, ce moment où ça te revenait, mais que tu subissais, tu vois, sans que t'aies encore la clé pour savoir quoi en faire? Et ça a duré à peu près combien de temps?
À peu près 2 ans. À peu près 2 ans, parce que surtout ce qui était difficile pour moi, c'est que j'avais le souvenir de la personne. Et je me disais, et cette personne, je lui parlais. Et en fait, je me disais, mais comment c'est possible d'être en contact avec cette personne, de lui parler comme si rien n'était, et d'avoir ses souvenirs liés à cette personne. Et c'est ça qui a fait que ça a mis autant de temps pour que ça devienne réel. Mais après, ça devenait... même quand je priais à un moment donné, ça revenait, ça s'imposait à moi. Donc au final, j'avais plus le choix de vraiment affronter et de dire ben là ça fait 2 ans que ça traîne, il faut maintenant que tu commences vraiment à y faire face.
Est-ce que tu en as parlé tout de suite quand tu as eu le souvenir et quand tu as eu la mémoire qui est revenue? Est-ce que tu as mis du temps à en parler ou est-ce que tout de suite tu as commencé à aborder le sujet avec d'autres personnes?
Alors, la première personne à qui j'en ai parlé, c'est mon mari. Et déjà, ça s'est très bien passé parce que il a tout de suite compris, parce que il commençait à voir que j'étais pas bien. Et c'est là aussi qu'on voit la force du Saint-Esprit, c'est que moi, je l'aurais peut-être gardé pour moi pendant longtemps. Mais en fait, c'était un jour, je faisais ma petite vaisselle et en fait, d'un coup, j'ai ressenti une forte pression, en fait, et qui me disait, parle, dis-lui, en fait. Et quand il est revenu, je lui ai parlé, il m'a tout de suite écouté, il m'a tout de suite compris. Ça faisait presque 6 mois de mariage, je crois, à peu près, que j'ai pu commencer à en parler avec lui. Et après, derrière, déjà le fait qu'il m'ait compris, ça m'a rassurée. Mais par contre, pour en parler vraiment à mon entourage en entier, donc je veux dire ma mère, mes sœurs, ça a pris un peu plus de temps, presque 6 ans. Mais parce que vraiment, quand on annonce ce genre de choses, ça fait vraiment l'effet d'une bombe.
Il y a des conséquences.
Il y a des conséquences. Et même si j'étais proche de mes sœurs toujours, mais c'était quand même dur d'arriver et de leur imposer ça. Et en plus moi de base je suis quelqu'un d'assez joyeux et tout, donc j'arrivais un petit peu à cacher la situation, mais en fait à un moment donné j'ai dit qu'il faut absolument que je leur parle. Et petit à petit, ça s'est fait. Je leur ai parlé et elles aussi elles m'ont cru. Donc ça m'a aidée. Et après d'autres personnes l'ont su, certaines personnes ont réagi pas comme je le voulais, dans le sens que certains n'ont pas cru. Certains ont gardé vraiment un silence. Mais avec le temps, j'ai compris aussi, j'ai appris plutôt à respecter le silence des gens, parce que c'est un sujet tellement dur que c'est compliqué pour les gens. Ils ne savent pas comment réagir, ils ne savent pas comment nous aider. Et surtout quand on arrive avec un bagage comme ça après 20 ans. C'est ça qui est compliqué.
Je me posais la question, est-ce que durant ces 6 années-là, est-ce que tu as eu besoin de validation? Est-ce que dans ta tête, tu dis, c'est vrai, c'est pas vrai?
C'est quoi comme le processus?
Oui, en fait, exact. Ouais. C'est, Est-ce que tu te demandais, c'est quoi ce que je ressens là? Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est mon imagination? Est-ce que je peux aller valider avec une personne? Parce que des fois, dans des situations comme ça, c'est des sentiments qui sont partagés. Il y a de la culpabilité, même si c'est pas, c'est une fausse culpabilité, mais tu comprends, il y a tout ça qui est entremêlé. Donc, 6 ans dans tes pensées, comment c'était dans ta tête?
Eh ben, mais vraiment, j'avais l'impression d'être folle. Sincèrement, au début, je me disais, il y a un problème, quoi. Tu t'inventes une vie. Mais comme je disais tout à l'heure, c'est que ces souvenirs reviennent aussi avec des émotions, tout ça. Donc, je les ressentais pleinement et j'avais pas le choix à un moment donné d'aller demander de l'aide. Comme je dis souvent, mon mari, voilà, quoi, c'est pas ma psychologue non plus, donc il pouvait pas entendre tout le temps. Je vais pas bien, je me sens pas bien, je me sens malheureuse. Il faisait tout pour moi, mais j'étais pas heureuse. Donc, je me suis dit à un moment donné, j'ai pas le choix d'aller faire appel à un psychologue. Et j'ai eu la grâce d'avoir quelqu'un de chrétien et avec lui, j'ai vraiment pu poser mes mots et m'emmener en fait à comprendre que finalement j'étais pas folle et que c'était vraiment quelque chose de réel, que c'était un phénomène qui existe vraiment et ça a enlevé la culpabilité, ça a enlevé la honte, ça a enlevé voilà tout ce poids en fait et dans tout ça, donc je crois que c'était après 3 ans voilà que j'ai pu vraiment aller voir un psychologue et commencer à faire ce travail là et c'est vrai qu'à partir de là j'ai pu me dire allez, maintenant, ça y est, tu commences ta marche. Voilà.
Mm-hmm. Est-ce que tu as eu un suivi spirituel aussi en parallèle?
Oui, mais ça, c'est presque dès le début, dès que j'ai commencé à m'en souvenir. C'est vrai qu'on a une église vraiment où on a l'opportunité vraiment de parler de ce genre de sujet et de libérer. Et vraiment, il y a eu plein d'épisodes, ça serait trop long, où vraiment on a prié pour moi, où j'ai vraiment, ça m'arrivait même de crier, de pleurer. Mais vraiment, vu que toutes ces années, j'avais pas pu décharger en fait ces émotions. Ben en fait, c'est quand on priait pour moi, ça faisait comme un vide. Mais il y avait tellement de vide à faire qu'il a fallu plusieurs moments où ça a été dans des réunions de femmes, ça a été dans des réunions de prière, voilà, ou simplement dans des discussions où vraiment le Seigneur a permis que les choses sortent petit à petit en fait. Et c'est vrai que moi je dis que je trouve que j'avais besoin de l'alliance des deux en fait, parce que justement avec le psychologue je pouvais vraiment le rendre palpable, disons, ce que je vivais, et il pouvait vraiment m'expliquer pourquoi je ressentais tout ça, ça validait mes émotions, et en même temps dans le suivi spirituel vraiment ça m'amenait aussi à me connecter plus à Dieu, parce que justement genre de situation, ben ça coupe en fait. J'étais déjà chrétienne, mais pour moi je n'arrivais pas à me comprendre pourquoi maintenant que j'avais un mari, des enfants, où tout allait bien, d'un coup il m'imposait ça et en fait j'avais tout pour détruire ma famille en fait. Tout ce que je ressentais avait vraiment le pouvoir de tout détruire et je me disais mais pourquoi le Seigneur il a permis que ça se passe maintenant? Donc le suivi spirituel m'a vraiment permis de renouer, disons, avec Dieu et de comprendre que c'était pas lui qui avait fait et de comprendre qu'il m'accompagnait, qu'il était avec moi et que même si moi, par exemple, je rêvais d'avoir une guérison instantanée, que ça se passe tout de suite, mais c'est pas arrivé. Mais par contre, voilà quoi, ça a été un processus, un processus long. Pas si long que ça, parce qu'au final, je me dis, je suis là après 9 ans et ça va beaucoup mieux, donc ça va quand même. Ça a quand même été un processus. Et au final, ça m'a permis, justement, comme je le dis toujours, de comprendre de quoi Dieu m'a guéri. Parce que s'il m'avait guéri d'une manière instantanée, je me serais pas rendu compte de tout ce pourquoi il m'avait guéri en fait, de quoi il m'avait sorti, et en plus les souvenirs ils venaient pas une fois, hein, ils revenaient, il y avait un souvenir, après il y avait d'autres choses qui revenaient petit à petit, et il y avait aussi toute mon enfance qu'il fallait que je guérisse, donc tout venait un petit peu à la fois, mais en fait chaque chose, Dieu prenait son temps pour guérir chaque situation, et aujourd'hui vraiment je le remercie vraiment pour ce processus.
Et comment tu as fait pour tenir pendant autant d'années sans t'exprimer sur le sujet? Parce que normalement, quand on réalise que j'ai été victime de quelque chose, on veut justice, tu vois. Mais toi, il y a quand même, tu attends, t'es patiente dans tout le processus. Comment tu as fait à ce niveau-là?
Ben déjà, faut un peu repartir sur mon enfance dans le sens que on a grandi dans une famille où on était tous dans la même maison, mais en fait le chef de famille qui était mon père a tout fait de manière consciente ou inconsciente, je sais toujours pas, mais en tout cas pour détruire et diviser notre famille en fait. Y a tellement d'actions, tellement de situations qui ont fait que on grandissait dans la même maison, mais on était séparés. Donc ce qui fait que il a fallu attendre des années et des années pour que vraiment, quand chacun est sorti, a commencé à guérir des blessures de l'enfance, de tous les traumas qu'on a pu vivre, pour que on puisse renouer et après parler en fait. Mais mais c'est ça qui a fait que ça a mis autant de temps, et surtout que vu que ça allait mieux et que on avait déjà tant de choses à guérir, je me suis dit allez viens, toi tu rajoutes encore cette situation, allez rebelote, on recommence à reparler de guérison de notre passé. Et en fait, j'avais pas envie d'imposer ça à ma famille, en fait. Et c'est ça qui a pris autant de temps. Et ouais. Mais j'aurais pu parler plus tôt, mais c'est vrai que c'est ce côté où je voulais protéger. Ouais.
Et tu te sentais, là, t'étais dans ton processus, entre guillemets, de guérison, même pas entre guillemets. Tu étais dans ce processus-là. Mais comment tu te sentais, en fait, durant tout ce temps? Est-ce qu'il y a un moment où t'as été comme, ouf, ça va, c'est fini. Ouais.
C'était des moments. Je me souviens, je marchais et je me disais, Seigneur, si j'avais la capacité de prendre mon cœur et de l'arracher, je l'aurais fait. Parce que j'avais tellement mal. En fait, c'est tellement. En fait, c'est bizarre de vivre ces émotions parce qu'en fait. On peut pas le guérir. Il y a rien en fait. C'est à l'intérieur de nous, on est brisé en fait. Il y a plus rien. On se sent vide. On n'a pas de force. Et j'allais bien quand j'étais active, quand j'étais à l'église ou à l'école, voilà, peu importe où dans ce que je faisais, ça allait. Mais à partir du moment où j'étais chez moi et que ça redescendait, et ben c'est là que je ressentais toute la souffrance. Et c'était ça qui surtout était aussi insupportable. Je vais bien, je vais pas bien. Je vais bien, je vais pas bien. Je vais bien, je vais pas bien. C'était vraiment, et c'est épuisant, en fait. C'est vraiment très, très, très épuisant.
Et comment t'as fait pour gérer la relation, du coup, avec cette personne? Parce que tu disais que vous étiez en contact. Comment est-ce que t'as fait? Est-ce que t'as gardé le contact? Est-ce que tu l'as confronté? Parce que, comme Aurélie dit, ça a duré quand même pas mal d'années. C'était super, je veux dire, tu as fait un super travail. Mais à vivre au jour le jour, ça peut être long. Donc, comment est-ce que t'as fait pour gérer cette relation?
Et ben disons que cette personne, à partir du moment où j'ai commencé à m'en souvenir, je l'ai appelée de temps en temps, juste pour tester en fait, pour voir ce que je ressentais quand j'étais au téléphone avec cette personne. Et là, je ressentais un profond mal-être et je me disais c'est pas normal. Donc là, ça commençait déjà à valider. Et après, j'ai coupé totalement la relation, mais je pensais que ça allait m'aider, mais pas du tout. Que ça allait me permettre de guérir, mais pas du tout en fait. Et en fait, c'est mon mari qui m'a vraiment emmenée à vraiment à parler à cette personne. Et pour moi, c'était impossible. Je me disais, mais c'est impossible. Et c'est quand vraiment c'est le Saint-Esprit qui a rajouté sa couche, qui m'a dit, t'as pas le choix de lui parler, de ne serait-ce que de pardonner en fait, tout simplement, sans spécialement. Rentrer dans une relation de réconciliation tout ça tout de suite, mais que t'avais besoin de te libérer de ça pour vraiment continuer de guérir, et ben c'est tout simplement je dormais un jour et je me suis réveillée un matin en me disant et si tu l'appelais, mais c'était naturel, mais c'était naturel surnaturel hein, parce que pour moi c'était impossible et en fait ça tout de suite le matin il y a eu cette force qui est venue et j'ai appelé, je l'ai confronté cette personne. Et elle a dit que c'était faux. Cette personne, voilà, a dit tout de suite que c'était pas vrai. Donc, ça a été dur, mais de la manière dont la personne elle m'a répondu, j'ai su tout de suite que ce que je disais c'était vrai. Donc au moins j'ai pu parler, même si là cette personne n'a ni demandé pardon, ni avoué, même a répondu des choses sur moi. Voilà, disait que je disais des mensonges sur lui, tout ça. Au moins je l'avais fait. Au moins je l'avais dit. Et même si j'ai plus eu de contact avec cette personne, je sais que de ce côté-là, je suis libre, que j'ai pu parler, j'ai pu lui pardonner après derrière. Mais c'est vrai que Ça m'a beaucoup aidé.
Comment ça s'est passé, l'étape du pardon?
Au début, en fait, je me suis rendu compte que j'avais pas le choix de prendre cette décision de pardonner. Voilà. Donc j'ai pris cette décision. Je me suis dit bon bah si tu attends de le ressentir, tu vas jamais le ressentir. Donc je me suis dit bon voilà, déjà Seigneur, tu vois ce qui s'est passé, tu vois ce que je ressens, mais là je prends la décision de pardonner à cette personne. Et mais ça s'est fait vraiment étape par étape. C'est vrai que au tout début, le Seigneur m'a pas dit pardonne-lui tout de suite. Ça a vraiment été du chaque jour, je te donne la force pour supporter ta journée, pour vraiment, parce que quand on vit ça, en fait, pour nous, c'est impossible. On a pu guérir le lendemain, c'est trop loin. Faut survivre à ta journée déjà. Et il m'a donné ce que j'appelle souvent ma manne journalière, en fait. Ouais. J'avais ce qu'il fallait pour ma journée. Mais à un moment donné, je ne pouvais pas rester à ce stade-là. Et il m'a emmené à un stade où je devais devenir plus offensive par rapport à ma restauration. Et là, il m'a demandé de faire des choses. Et c'est là que ça a rentré, il m'a commencé à me parler de pardon et que j'ai décidé, je me suis dit, bah allez, je prends la décision de pardonner. Et de là, petit à petit, par la prière, par beaucoup de messages aussi de MCI TV, voilà, qui ont fait que, voilà quoi, je me suis dit en fait, si tu ne pardonnes pas, c'est toi que c'est toi qui reste dans cette prison. Et ce qui m'a aidé aussi, c'est en fait de réfléchir tout simplement et de me dire que même si cette personne venez au final me demander pardon, en fait, toutes les séquelles dont j'avais à guérir, ça changerait rien. Mm-hmm. Donc, en fait, c'est la seule personne que je punissais, c'était moi-même. Mm-hmm. Donc, je me suis dit, en fait, t'as pas le choix, quoi. Et avec le temps, le Seigneur m'a aidée. Et voilà, quoi.
On voit que t'es rayonnante, t'es paisible, le processus est là. Mais est-ce que durant cette période, c'est sûr que toute la démarche du pardon, ça éveille des sentiments. Est-ce que tu as eu des moments de colère, parce que des fois, tu sais, on pense que la démarche se fait, on voit le produit fini, mais dans le processus, j'imagine, tu sais, surtout s'il il croyait pas, il a pas demandé pardon ou il disait des faussetés, des fois ça. Alors comment tu gérais ces émotions aussi j'imagine, je sais pas si tu me dis de colère, mais ou peut-être d'autres émotions que tu avais.
Il y avait de la colère, d'injustice. Et en fait, surtout, ce que je ressentais, c'est que je me disais, en fait, cette personne a posé un acte et aujourd'hui, moi, je dois passer tout mon temps à guérir de ses séquelles, en fait. Et ça, je trouvais ça, mais ultra injuste. Parce que je me disais, maintenant, c'est à moi de commencer à faire un travail de guérison qui est vraiment pas facile au final. Hein. C'est un travail de tous les jours, c'est un travail de... On se lève le matin, on doit repositionner son esprit à dire, Seigneur, aujourd'hui, je décide d'avancer. En fait, on est presque à un moment donné, on devient presque un robot, quoi, parce que ça n'a rien de naturel. Et il faut se positionner. Ça demande un effort quotidien. Ça demande tellement d'efforts que je me disais, mais en fait, c'est injuste. Mais ce qui était plus gros pour moi, c'était ce sentiment de d'injustice, quoi. Et qu'en fait, je ne pouvais plus rien faire parce que cette personne était tellement loin que je pouvais même pas ni porter plainte. Okay. J'avais rien entre mes mains. Et ça, ce sentiment d'injustice, il était dur, hein. Il était vraiment dur.
Mais moi, je trouve ça parlant ce que tu dis parce que des fois, on a l'impression quand on regarde quelqu'un qui dit, j'ai traversé ça, j'ai pardonné, mais ce que tu décris, c'est exactement ça. T'as pas attendu la journée où, je le ressens aujourd'hui, j'ai des sentiments pour, tu sais, je fais le choix de pas être, et aussi de pas être dans le déni, dans le sens que les événements sont vrais, ils suscitent de vraies émotions, mais je fais le choix de faire abstraction de ça et de choisir le pardon parce que on sait ultimement que c'est ce qui libère. Mais il y a quand même une lutte. T'sais, les émotions, elles sont là. Des fois, on a l'impression que les autres n'ont pas d'émotions puis qu'on est les seuls à lutter contre l'injustice. Non, on les ressent dans un processus comme ça, mais on fait un choix de dire, OK, je les écoute pas parce que je vais être prisonnière puis paralysée le reste de ma vie. Mm-hmm. Donc, on le fait pour soi aussi parce que l'autre, il reconnaît pas ses torts.
Rachel.
Oui. Non, vas-y.
Et en fait, ce que j'ai aimé avec cette marche de pardon et de guérison, c'est que le Seigneur m'a emmenée à devenir plus forte. Parce qu'en fait, quand on vit ça, on se sent vraiment une biche écrasée par une voiture, quoi. Mais on se sent vide. L'image est pas, je sais pas si c'est parlant,
c'est
mais
très clair.
Oh, pour nous au Canada, oui, ça parle.
Ouais, voilà.
Et vraiment, avec même un petit peu de neige.
Voilà, qu'on vide rien du tout. Et en fait, toutes ces démarches qui nous demandent de faire pour guérir, elles sont extrêmement difficiles. Elles sont dures. Mais quand on choisit de les faire et qu'on décide de les mettre en pratique, on se dit, ah ouais, mais je suis forte. Ah ouais, Seigneur, il va me permettre de faire ça. Donc, au début, c'est des trucs tout simples. Après, ça monte crescendo. Le pardon, c'est un stade assez, assez haut. Et lui, ben, quand on a fait ça, on se dit, ah oui, c'est vrai, Seigneur, je suis plus forte que ce que j'ai vécu. Tu me donnes une force que même au final, avant, par exemple, moi, à l'époque, quand j'avais pas ces souvenirs qui étaient remontés à la surface, je me sentais pas aussi forte, je me sentais pas aussi solide, je me sentais pas aussi ferme dans ma foi. Ma relation avec Dieu n'avait rien à voir que là, dans ce processus, j'étais plus solide qu'avant. Même si mes émotions me montraient tout le contraire, mais en fait, je me sentais plus grande. Et le Seigneur, il a utilisé vraiment une histoire en particulier qui continue à en parler jusqu'à aujourd'hui. C'était de la femme tsunamite, dans le sens que, bref, pour la faire courte, c'est dans Deux Rois, je sais plus combien, mais
chapitre
4.
Chapitre 4.
Ah, voilà. Et en fait, donc voilà, elle avait son mari tranquille, elle avait sa vie, mais elle pouvait pas avoir d'enfant. Dans son cœur, elle avait décidé de bénir Élisée, et Élisée lui a dit, ben, qu'est-ce que je peux faire pour toi? Il lui a dit, ben, tu auras un enfant dans un an. Elle a dit, ben,
ne me trompe pas,
voilà. Et bref, elle a fini par avoir cet enfant, et au final, derrière, cet enfant meurt, et ce qui m'a beaucoup touchée, dans ça, et que le Seigneur m'a amené à avoir ce cœur-là, c'est que son fils meurt, mais elle prend le temps de quand même le mettre dans une chambre, sortir, voir son mari, dire tout va bien, de rencontrer
Élisée.
Et voilà, voilà. Géasi au début, je crois.
Géasi,
voilà. Et lui a dit aussi ça va bien, jusqu'à ce qu'elle rencontre Élisée. Et de là, elle dépose tout ce qu'elle avait dans le cœur. Et vraiment, le Seigneur m'a emmené à avoir aussi un cœur plus solide, plus ferme, parce qu'il y avait un temps où je devais parler, il y avait un temps où je devais me plaindre. J'avais un temps, il fallait que je sois une victime. Mais il y avait un temps où aussi, il m'a amené vraiment à faire un face-à-face avec lui, en fait. Et de dire, ben, oui, ben, même si ça va pas, même avec mon propre mari, je devais dire, ça va bien, en fait. Ça va bien, mais je devais pleurer après auprès de Dieu, en fait. Ça veut pas dire qu'il faut fermer les yeux et voilà, dire tout va bien. Mais c'est qu'à un moment donné, en fait, il m'emmenait vraiment à devenir solide. Parce que quand on voit cette femme, on se dit, mais, le cœur qu'elle a dû avoir pour faire ça, quoi. Ton enfant est mort, mais tu dis tout va bien et tu fais tout un chemin pour aller voir le prophète. Et c'est vrai qu'au final, cette marche m'a rendue forte.
Mais en fait, c'est exactement la marche que t'as faite aussi dans ce sens que
t'as lancé Stéphanie sur la tsunami. Là.
Mais dans le sens, elle dit tout va bien aux autres, mais au prophète, elle a dit je t'avais dit ne me trompe pas. Et c'est exactement ça, c'est que tu sais comme tu dis à ton mari tout va bien, mais c'est avec Dieu que tu lui as dit tes vrais sentiments. Et c'est avec Dieu qu'on peut guérir. Et si vous voulez, je peux vous le prêcher en trois points avec.
C'est un métaphore.
Non, je fais une blague, mais c'est tellement, t'as tellement raison que ce texte-là capsule tellement un processus de guérison.
Mais qu'est-ce que justement, Rachel, tu peux dire à quelqu'un aujourd'hui qui a peut-être été abusé comme toi et qui passe par ces luttes internes et pour qui c'est très difficile et qui n'y arrive pas? T'es quand même mieux placé pour comprendre ces choses-là. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu peux dire à ce type de personne?
Oui, alors ce que je dirais, c'est que déjà au niveau de quand on vit ça, c'est qu'il ne faut rien négliger, qu'on est esprit, âme et corps, et que toutes ces trois sphères là, elles ont besoin d'être remplies, elles ont besoin d'être vraiment nourries quoi au final. Et j'ai rencontré beaucoup de personnes qui dans la foi au final, qui ont vécu ce genre de situation d'abus ou de choses très graves, mais ils se concentraient que dans la prière. Je dis pas que c'est pas bien, c'est important, mais en fait le fait que de faire ça, au final, on s'approchait de, oui, il y avait ce côté foi, mais par contre, en leur parlant, en étant dans leur contact, et ben, en fait, on sentait tout de suite qu'au final, il y avait des choses à guérir, en fait, il y avait des choses difficiles. Et en fait, si vraiment, tu veux guérir de ce genre de choses, c'est vraiment de prendre le temps avec Dieu et de lui dire vraiment guéris-moi, mais totalement en fait. Mm-hmm. Toutes ces parties de ma vie en fait doivent être guéries, parce que même le corps se souvient de ça, même notre âme justement, il s'habitue même à. Moi, je sais que par exemple, mon âme avait l'habitude de. C'était plus facile d'avoir des émotions de tristesse que d'avoir des émotions de joie ou de mm-hmm. quelqu'un de combatif ou quoi. Et j'ai dû le discipliner, mais avec l'aide du Saint-Esprit en fait. Mm-hmm. Et c'est tout un chemin, mais faut rien négliger. Et il n'y a pas une baguette magique ou un truc 1.1, 1.2, 1.3. Mm-hmm. C'est vraiment Saint-Esprit, qu'est-ce que je fais aujourd'hui? Et surtout, quand il nous donne des indications, parce qu'il nous les donne toujours, c'est de les écouter en fait. Et moi, à chaque fois que j'ai voulu ou sauter un palier ou m'arrêter quelque part, eh ben, je n'avançais pas. Je savais que la grâce de Dieu était avec moi, qui me disait « Ok, tu ne veux pas faire, je comprends, c'est trop dur. » Mais en attendant, je n'avançais pas en fait. Et j'ai rencontré plein de personnes qui dans une sphère de deux, eh ben, ils avancent super bien. Ça va être des gens, ils vont prier 3-4 heures par jour, ou ils vont s'occuper d'autres choses. Mais en fait, ils vont pas voir la totalité, en fait. Ouais. Surtout que les abus, ça, en fait, l'ennemi, je crois qu'il a trouvé une arme extraordinaire pour tuer les femmes. Oui, l'abus. Mmh. C'est, tu veux détruire quelqu'un, tu veux détruire une femme, tu veux détruire sa famille. Abus, et c'est bon, c'est fait. Donc, parce que ça touche vraiment tout. Ça touche vraiment tout, en fait. Et ça impacte après tout le reste de notre vie. Mmh. Et vraiment prendre le temps de se dire que je dois guérir entièrement. Prendre le temps. Et voilà, quoi.
Ouais. Et puis aussi, par rapport à ce que tu disais tout à l'heure, quand tu disais que c'est quand tu arrivais à la maison, justement, que tu ressentais toutes ces choses-là. En fait, on peut réaliser aussi que parfois c'est plus facile de juste fermer les yeux et de vouloir croire que ça n'a jamais existé, et que voilà, la vie est belle et on continue à vivre. Mais tu vois, quand tu donnes ces conseils-là, moi j'ajouterais aussi ça, c'est que s'il y a vraiment quelque chose qui s'est passé, ça s'est passé en fait. Faut pas juste chercher. Parfois, hein, chez nous, on met la télé, ça tourne, et quelque part, ça nous relaxe, ça te fait oublier tes soucis, ça te fait oublier toutes sortes de choses. Mais faut pas chercher à oublier, justement. Faut pas chercher à oublier. Faut chercher à confronter, comme tu dis. Si le Saint-Esprit t'amène là, mais c'est pas pour rien. C'est qu'il faut prendre le temps de s'arrêter dessus. Et je pense qu'il y a peut-être beaucoup de personnes qui nous suivent aujourd'hui qui ont besoin de s'arrêter sur quelque chose qui s'est passé dans leur vie et de dire, Saint-Esprit, je veux plus fuir, en fait. Ouais. Je veux plus fuir. Si ça s'est passé, ça s'est passé. Je crois, comme avec le cas de Rachel, que Seigneur, tu vas m'aider dans ce processus, mais je ne veux plus fuir. Donc, si c'est votre cas, peut-être à vous qui nous écoutez aujourd'hui, prenez cette décision de dire, je ne fuirai plus devant cette situation-là, mais Saint-Esprit, je choisis d'agir avec toi, avec cette sagesse que Rachel a eue, parce que je trouve que dans l'histoire de Rachel, il y a une sagesse remarquable. Énorme. Donc vraiment, avec cette sagesse-là, cet équilibre, comme Stéphanie, tu dis, faites ce pas aujourd'hui, et on croit, on a prié pour vous en début d'émission, on croit que le Seigneur va libérer votre cœur. Mmh. Ouvrez cette porte à Dieu aujourd'hui et suivez les étapes que le Saint-Esprit va vous communiquer.
Et moi, je veux te remercier, Rachel, aussi, d'avoir partagé ouvertement les différentes étapes. Et je dirais que tu nous as pas vendu du rêve, mais c'est très bien, dans le sens où quelquefois, on peut aussi brusquer et simplifier ce chemin de restauration. Voilà, t'es guéri, t'es restauré dans le nom de Jésus, c'est terminé. Et aussi, par rapport, je le dis aussi, par rapport à des pasteurs, à des conseillers, à des ministères et tout, c'est de comprendre qu'il y a un chemin de guérison. Et oui, il y a des choses qui se font instantanément, il y a des choses qui ne se font pas instantanément. Et dans tout chemin de restauration, il y a des petits pas et il y a des grands pas. Et les deux sont hyper importants, parce que un grand pas nous va faire gagner, enfin nous faire parcourir une distance de façon surnaturelle en très très peu de temps. Mais tous ces petits pas, c'est autant de distance aussi parcourue et qu'on doit parcourir. Et ça nous apprend la confiance en Dieu, la dépendance envers lui. Et une chose que tu as dite qui m'a quand même, qui m'a marqué, j'ai besoin d'y réfléchir après l'émission. Mais tu vois, c'est tout ce processus avant d'arriver au pardon. Et de dire, bah, tu vois, en fait, j'avais pas forcément cette force de pardonner. Et il y a eu ce temps de, ce temps où t'as souffert, en fait. Et où la douleur avait besoin de sortir, de s'exprimer. Et tout ce qui avait été refoulé pendant toutes ces années. Et que le temps du pardon est venu après. Et c'est vrai que quand on écoute ton histoire, bon, on sent qu'il y a une grande sagesse, mais de la part de Dieu, en fait, dans tout ce qu'il a fait. Qu'il y a une grande cohérence. Et tu prenais cette histoire de la femme tsunamite. Et c'est d'être conscient, ok, il y a un ordre, il y a une sagesse dans ton plan, Seigneur, et de la comprendre. Alors, ton chemin à toi est ton chemin, parce que le fait d'avoir su que tu avais été abusée plusieurs années plus tard, bah, c'est sûr que c'est un autre chemin que la femme qui le sait depuis des années et des années et qui vit avec ça. Mais ceci dit, dans tous ces chemins-là, bah, Dieu a une sagesse, et c'est d'aller dans ces étapes quand lui nous y amène, et ne pas rester trop longtemps dans une étape quand c'est le temps de passer à l'autre étape, comme tu le disais. En tout cas, je trouve que ton histoire est très instructive sur le cœur, l'amour de Dieu et sur la sagesse de
la
Dieu
sagesse,
aussi.
La patience aussi.
Voilà. La sagesse, vraiment.
Mais merci beaucoup, Rachel. Et encore une fois, on le dit souvent dans cette émission, dans À Table, mais ce que Dieu a fait pour toi, il peut le faire aussi pour d'autres femmes. Et de voir que tu sais, à quel point c'est sincère et c'est profond, c'est authentique, cette restauration. Je crois que ça, toi-même, ta vie, ton témoignage communique ce désir de vivre cette relation avec Dieu, pour vivre cette restauration jusqu'au bout. Alors un grand merci, Rachel.
Merci.
Et puis salut toute ta famille. Et on a été très contente de pouvoir être avec toi. Et écoute, on se dit peut-être à bientôt, parce que tu étais passionnante.
Oui, Rachel, c'était. Merci pour tout.
Merci. À très bientôt alors.
Très inspirant. À bientôt, Rachel. Et puis vous tous, eh bien, on se donne rendez-vous mercredi. Mercredi, nous allons parler de trahison aussi. Alors, je crois que beaucoup de cœurs ont été brisés à cause de ce genre de relations brisées. Mais vous allez voir, il y a aussi un chemin de restauration qui est disponible. Alors, on s'est dit à mercredi. Bye bye.
Cette émission a pu être réalisée grâce au précieux soutien des partenaires de MCI. Retrouvez toutes les émissions À Table avec Annabelle sur emcitv.com.